complètement à l'Est sur RCN.
Bonjour Elfenoul, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis pour notre émission Complètement à l'Est. Aujourd'hui, pour nos invités de la semaine, nous recevrons Eve Martinetto et Mouloudji qui viendront nous présenter le Blue Music Festival qui se déroulera à l'autre canal le 7 juin. Pour notre micro-trottoir, nous irons à la rencontre des Nancéens leur demander leur avis sur Thibaut InShape qui vient de dépasser Squeezie, celui qui détenait le plus grand nombre d'abonnés dans le YouTube français jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, pour commencer, à l'occasion du 30 mai, la journée mondiale de la sclérose en plaques, nous irons à une manifestation grand public afin de sensibiliser sur cette maladie.
RCN, complètement à l'Est, Elfenoul.
Bonjour, moi je suis Morgane Momy-Brignon, je suis coordinatrice du réseau LORCEPT, donc c'est le réseau lorrain qui accompagne les patients atteints de sclérose en plaques et leurs proches. La sclérose en plaques, ça touche 120 000 personnes par an en France, donc on a eu envie de faire cette journée dans le cadre de la journée mondiale qui est demain, pour donner de la visibilité à la maladie, puisque c'est une maladie de l'adulte jeune, première source de handicap non traumatique de l'adulte jeune donc. Et voilà, on voulait proposer différents stands, à savoir un stand de simulation du handicap et de pratique de l'activité physique en partenariat avec le centre de l'Essaint-Christophe. Donner de la place aussi et de la parole aux associations de patients et aux associations comme FranceCEP. Et puis on diffuse en continu sur la journée des podcasts sur différentes thématiques d'hygiène de vie, d'activité physique, etc. autour de la sclérose en plaques.
Et donc vous pouvez rappeler la journée, c'est le combien ?
C'est le 30 mai.
C'est le 30 mai,
oui.
Et vous faites ça tous les ans du coup ?
Non, on essaie d'alterner, là on reprend, mais dans l'idée une année sur deux.
D'accord, et donc aujourd'hui ça va, ça se passe bien pour vous ?
Ça se passe bien, on manque de soleil, mais ça se passe bien, on a du monde quand même, voilà, on espère que le temps s'améliore, mais ça se passe bien.
D'accord, et c'est quoi les stands qu'on peut retrouver du coup ?
Alors vous pourrez retrouver cet après-midi à la maison départementale du handicap qui sera là, qui sera présente. Il y a également les stands d'associations de patients et d'associations hors association de patients. Il y a le stand du réseau LORCEP avec un espace enfant et un stand de l'Essaint-Christophe de l'UGCAM qui propose un parcours de simulation du handicap, des activités physiques et un jeu de cette famille sur les troubles invisibles.
D'accord. Voilà. On peut rappeler où on est, s'il vous plaît ?
Et on est place Charles III à Nancy.
Parfait, merci.
Merci.
Complètement à l'Est sur RCN.
Effectivement, aujourd'hui, nous organisons une journée de sensibilisation à la sclérose en plaques, destinée aux patients, mais également au grand public, pour essayer de mieux faire connaître la maladie, qui reste encore très très mal connue du grand public. Donc, par l'intermédiaire de notre association, le réseau LORCEP, qui est un réseau de soutien et d'accompagnement des patients dans toute la Lorraine et également la Haute-Marne. Donc, nous essayons d'être au plus proche des patients avec l'intermédiaire d'infirmières, de neuropsychologues, de psychologues, d'assistantes sociales pour aider les patients du mieux possible dans leur vie quotidienne. C'est effectivement une pathologie qui touche les sujets souvent jeunes au départ, puisque ça peut même commencer dans l'enfance. Et c'est la deuxième cause de handicap de l'adulte jeune après les accidents de la vie. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de très important, avec énormément également de symptômes invisibles, avec la fatigue, les choses comme ça. Donc c'est important d'être là pour un peu, entre guillemets, vulgariser la maladie et expliquer ce que c'est vis-à-vis d'un peu tout le monde.
D'accord. Donc la journée aujourd'hui, elle se passe comment ?
Eh bien aujourd'hui, vous voyez, il y a des stands avec un stand donc du réseau pour informer un petit peu les patients. Il y a le stand des associations qui accompagnent également au quotidien les patients. Et il y a les stands organisés avec les centres de rééducation, en particulier les Saint-Christophe, pour montrer également aux gens effectivement les difficultés que peuvent rencontrer les patients dans leur vie de tous les jours par rapport aux troubles de l'équilibre, aux troubles de la marche, donc avec le parcours avec un sac lesté sur le dos, avec des lunettes qui perturbent un peu la vue, pour que les gens puissent se rendre compte également des difficultés des patients dans la vie de tous les jours. Et puis également les associations qui ont fait un jeu, effectivement, un jeu des sept familles pour essayer de, effectivement d'expliquer aux patients et à tout le monde un petit peu l'ensemble de tous les symptômes qui interviennent dans la maladie.
Est-ce qu'on peut savoir, du coup, vous êtes docteur en quoi ?
Neurologie, neurologue.
Et donc, comment ça se passe la maladie ?
La sclérose en plaques, c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune, donc c'est le système immunitaire des patients qui se retourne un petit peu contre eux, et en particulier contre effectivement la gaine de protection des neurones. Et la plupart du temps, le plus fréquemment, c'est une maladie qui intervient par poussée. Il va y avoir des signes qui vont apparaître pendant quelques temps, puis disparaître. Ça peut être des signes à type de fourmis dans une main, de manque de force dans une jambe, de flou visuel sur un œil. Et ben voilà, au fur et à mesure, sans traitement, au fur et à mesure des années, ben les poussées récidives peuvent laisser un petit peu des séquelles, et peut également y avoir une évolution, malheureusement, plus lentement progressive de la maladie, avec une progression du handicap au fur et à mesure du temps. Mais heureusement, maintenant, on a quand même de plus en plus de traitements, puisque effectivement, moi je me suis installé il y a une trentaine d'années, on n'avait aucun traitement spécifique de la maladie. Et aujourd'hui, on a une petite vingtaine de molécules différentes pour lutter contre la maladie.
Et quels sont, quand on remarque les premiers signes, il faut aller voir qui, par exemple ?
C'est le médecin généraliste en premier qui, effectivement, en fonction des signes, jugera de la nécessité d'orienter vers un neurologue, donc qui est le médecin spécialisé avant. Et le neurologue, lui, pourra programmer, effectivement, des examens particuliers, des IRM, des choses comme ça, pour, effectivement, affirmer le diagnostic.
Et donc c'est une maladie qu'on a à vie quand on a la sclérose.
Malheureusement, une fois qu'on l'a, on n'a pas aujourd'hui de traitement définitif pour guérir, mais on a effectivement, je dis, de plus en plus de traitements. Et si les traitements sont pris très tôt et débutés très tôt après le diagnostic, ça permet quand même de ralentir et d'essayer d'éviter au maximum l'évolution de la maladie. Et aujourd'hui, les patients vivent effectivement souvent sans handicap beaucoup plus longtemps qu'il y a encore quelques années. Mais on n'a pas aujourd'hui, malheureusement, de traitement définitif pour guérir.
D'accord. Et donc, ça peut commencer dès le jeune âge, vous avez dit ?
Oui. La plupart du temps, la très grande majorité des patients, ça débute entre 20 et 30, 40 ans. Mais il y a quelquefois des débuts déjà chez les enfants, en fait.
Et quand ça arrive très jeune comme ça, comment on fait par rapport à la vie quotidienne, par exemple, les enfants ?
Ça c'est très difficile, et c'est aussi un des rôles de l'association d'être là pour aider justement. Mais Julie, voilà, maintenant avec les traitements, heureusement, on essaye, on réussit à obtenir que les enfants et les jeunes adultes aient une vie le plus normale possible, le plus longtemps possible.
RCN, complètement à l'Est, elle fait nous.
Dans un instant, on se retrouve pour la suite de cette sensibilisation à la sclérose en plaques juste après Middle of Nowhere de Macabre Plaza.
À l'Est sur RCN.
Alors nous, on utilise des activités physiques adaptées ou non pour pouvoir rééduquer les patients. Donc ça peut partir des sports collectifs classiques que tout le monde connaît, basket, foot, ou alors des activités adaptées. Donc là, on est sur du handi-basket en fauteuil, ou foot-fauteuil, ou des plus classiques, du renforcement en salle de musculation. Donc nous, les patients, on établit un petit projet par rapport à leurs envies et surtout par rapport à leurs appétences. Donc si c'est quelqu'un qui pratiquait une certaine chose, on essaie d'aller dans leur domaine. On utilise ce domaine pour pouvoir pour essayer d'accrocher, de rééduquer. Et la rééducation ne s'arrête pas sur le moment et on essaye de continuer après la rééducation, donc ce qu'on appelle la réadaptation, et puis après le centre aussi.
Et en quoi est-ce que la rééducation, c'est quelque chose qui est important ?
Alors souvent, aujourd'hui c'est vrai que le sport, on dit tout sport santé, hein. Là, les sports santé, c'est vraiment sur tous les profils, c'est-à-dire que là, ça va du profil à essayer d'amener les patients à bouger un peu plus. Donc ça va du simple fait de sortir de chez soi. Souvent, le patient va se dire, voilà, si je pratique, si je fais quelque chose, mais je vais être fatigué. Et c'est un peu le cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Je fais des choses, je suis fatigué, donc je ne vais rien faire. Alors que justement, non, c'est plutôt en pratiquant certaines choses, mais adaptées, pour pouvoir essayer de passer par des paliers. C'est-à-dire, bah voilà, je vais essayer de sortir de chez moi un petit peu plus. Mais voilà, pour certains, ça va être juste de se lever plus de chez soi, faire plus de choses debout ou juste de sortir, aller chercher le pain et revenir. Et d'autres patients, ça va être je m'inscris à une association, je fais des choses, je crée du lien, je vais dans une association ou une gymnasium ou alors même dans une salle de sport lambda ou adaptée si besoin.
Et du coup ici, qu'est-ce que vous présentez exactement ?
Alors ici sur cette journée sur la sclérose en plaques, on a un petit, on est trois stands, on a le versant donc on essaie de balayer tous les symptômes de la sclérose en plaques. Donc là, il y a un premier atelier, c'est plutôt sur le versant cognitif, vraiment. On a un deuxième atelier, nous, donc en activité physique, on fait un petit peu le lien. On s'est focalisé que sur l'équilibre. C'est vrai que des fois, voilà, sur la marche, sur tout ce qu'on peut faire, c'est souvent perturbé, donc c'est vraiment ce qui va nous gêner le plus. Et sur la suite, c'est emmené par une kinésithérapie. C'est un parcours où, là, cette fois-ci, vous avez testé où il y a plusieurs symptômes. Donc, il y a l'équilibre, la vue, tout ce qui est hémiparésique, qui a un côté touché, le poids, voilà. Donc, on essaye vraiment de balayer un petit peu tous les symptômes qui sont visibles ou invisibles.
Et quel est votre organisme ? Où est-ce qu'on peut vous retrouver ?
Alors, nous, on fait partie du centre de réadaptation de l'Essaint-Christophe. Donc, qui est un centre de rééducation et de réadaptation spécialisé dans la neurologie.
Alors moi du coup je suis Annelle, neuropsychologue au centre de l'Essaint-Christophe.
Et moi c'est Noémie et je suis orthophoniste aussi au centre de réadaptation de l'Essaint-Christophe.
Donc quelle est l'importance de que vous soyez là vous deux, quel est le lien que vous avez par rapport à la maladie ?
du coup on rencontre, j'allais dire au quotidien, c'est pas tous les jours, mais des patients qui présentent ce profil-là. Donc on est formé à la prise en charge, alors à l'évaluation et à la prise en charge de ces patients. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours très enrichissant d'avoir des témoignages en dehors de notre quotidien dans le paramédical, où on a des collègues aussi là-bas dans le médical. L'avantage de faire un stand à plusieurs professionnels, c'est que on a des domaines qui sont très différents mais très complémentaires, ce qui permet d'orienter les patients. Moi, je m'occupe plutôt du langage, mais s'il y a des difficultés cognitives, je vais orienter vers ma collègue neuropsychologue pour que le patient il puisse être pris en charge dans tous les domaines, il puisse avoir un parcours adapté et individualisé surtout, puisque c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec les différents signes. On n'a pas forcément tous les signes à chaque fois. Il y en a qui sont plus importants chez certaines personnes, d'autres qui sont plus nuancés, d'autres qui n'existent pas du tout. Et donc il faut que le parcours soit individualisé. Il y a autant de profils de patients que de signes, que de... Voilà, donc c'est très divers. Et donc ça nous permet de réorienter quand il y a besoin, et on travaille en collaboration, tout le monde. Voilà.
Je suis Marine Petit, patiente experte de la Fondation France Sclérose en Plaques.
Je suis Laurence Lamaze, patiente experte de la Fondation France Sclérose en Plaques. J'ai fait cette formation en 2019 et j'ai la sclérose en plaques depuis 30 ans. Et je vis bien avec, et maintenant je mets au service des autres mon expérience de la maladie à travers ma formation de patient expert.
On intervient donc au niveau national, mais aussi au niveau de la région, où est-ce qu'on a remis en place les cafés CEP qu'on oriente dans différentes villes afin que les patients puissent échanger, présenter-nous les nouveaux supports qu'on peut avoir et être à l'écoute du patient.
Voilà, nos rôles sont des rôles à la fois de communication, communication vers le grand public, vers les patients directement, on est à leur écoute. Je participe au sein de notre association française à une ligne d'écoute téléphonique où nous sommes à la disposition des patients et nous les orientons, nous les écoutons. Nous sommes également, nous faisons également de la communication aux médias, au niveau politique également, nous intervenons et nous faisons...
On intervient aussi également, on est amené à former tout ce qui, enfin, tous les corps médicaux. On va former autant des infirmières, des futures infirmières que des futures aides-soignantes. On est amené aussi à former des kinés, des ergos. Enfin, voilà, c'est vraiment un large spectre.
Un champ d'action assez
large. Voilà.
Quand vous dites former, vous parlez de quoi?
On va être... je reformule. On est un peu porte-parole. Okay. Du patient, c'est-à-dire qu'on a amené à expliquer les symptômes visibles, invisibles, l'écoute du patient. Enfin, vraiment, on a cette possibilité de faire connaître la maladie dès la formation. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau personnel médical, on va donner les clés à ses futurs soignants pour une bonne prise en charge du patient atteint de sclérose en plaques.
Si on souhaite vous contacter, comment on peut faire?
Alors, on est disponible...
On a un annuaire national qui a été établi par notre association France Sclérose en Plaques qui recense tous les patients experts qui interviennent sur toute la France. Et donc, nous figurons, Marine et moi, dans cet annuaire où nos coordonnées sont référencées. Sinon, on peut être joignable via le réseau de soins l'ORCEP, avec qui nous travaillons en partenariat. Nous intervenons directement pour faire de l'animation également, de l'éducation thérapeutique, où on apporte également notre témoignage. Et donc là, eux-mêmes nous renvoient parfois des patients qui ont besoin d'être orientés, écoutés, et on travaille en partenariat complet avec eux, comme on le fait avec les professionnels de santé également.
RCN, complètement à l'Est, elle finit.
Dans un instant, on se retrouve pour notre micro-trottoir juste après Hot House de Berlioz.
parisienne, complètement à l'est, elle fait nous.
Aujourd'hui, pour notre micro-trottoir, nous demandons aux Nancéens leur avis sur Thibaut InShape, qui vient de dépasser Squeezie, celui qui détenait le plus grand nombre d'abonnés dans le YouTube français jusqu'à présent.
Ce que je peux dire, c'est qu'il mérite des abonnés, mais pas autant que Squeezie. Genre Squeezie, je suis désolée, mais c'est un goat pour YouTube. Mais Thibaut InShape aussi, mais lui, c'est plus dans le sport et lui, c'est plus pour nous divertir. Je sais pas, mais en tout cas, c'est... Je sais pas comment expliquer, mais il mérite pas de battre Squeezie en nombre d'abonnés.
Parce que c'est tout. Que Squeezie propose un large panel de choses.
Ouais, il fait beaucoup plus. Ouais, voilà. Et Thibaut aussi, il fait plus de. Comment ça s'appelle ? J'ai oublié comment ça s'appelle le nom, mais. Non. Ah. Il fait plus. Il recopie les gens.
Ah, ok.
Je sais plus comment. Ouais, voilà. Du plagiat. Et lui, il fait ça et c'est pas. C'est dégueulasse.
Bah, personnellement, je préfère Squeezie parce que il a. Il a plus accès aux jeunes et je pense que YouTube c'est plus une application faite pour les jeunes on va dire. Et Thibaut InShape il propose que le sport. Je pense qu'il devrait faire une application ou aller sur une application dédiée au sport. Parce que Squeezie c'est vraiment des vidéos. C'est une vidéo de divertissement. Voilà.
Moi je trouve que c'est le game de YouTube. C'est un peu comme ça que YouTube se représente, c'est une compétition entre les meilleurs. Thibaut InShape est passé devant, je ne sais pas comment, peut-être que son public s'est élargi, il a diverti son contenu, il a su donner de meilleures propositions que Squeezie. Après Squeezie, ces temps-ci, il était un peu plus sur lui-même, a recentré ses projets sur lui-même, a arrêté les vidéos, donc forcément, il perd un peu plus d'audience. Et c'est à ce moment-là que Thibaut InShape a saisi l'opportunité, a su être le premier YouTuber de France.
C'était plus un
Squeezos
ou...
Un Squeezos, les 100%.
Et pourquoi tu préfères Squeezos?
Parce qu'il me divertit plus et il me propose plus de contenu que Thibaut InShape. C'est pas mon contenu Thibaut InShape.
Ok.
Pardon.
Vas-y.
Donc moi je pense qu'ils ont tous les deux un contenu qui est vraiment à l'opposé, c'est différent. Thibaut s'est centré sur la muscu de base et il a commencé à se divertir petit à petit. Squeezie c'est un peu pareil mais ça s'ouvre... Ça s'élargit comme il a dit. Mais après... Je reprends encore ses propos, hein. c'est le game, c'est comme ça, c'est soit t'es bon, soit t'es pas bon. Après je pense que Squeezie peut remonter, il va forcément remonter. Je pense qu'il a beaucoup de fans, des gens qui le suivent, etc. Donc on verra à l'avenir.
RCN, complètement à l'est, elle fait nous.
Maintenant écoutons Disco Disco de Yin Yin et juste après nous retrouverons nos invités de la semaine. Thank you.
à l'Est sur RCN, l'invité de la semaine.
On se retrouve maintenant dans la deuxième partie de cette émission avec nos invités de la semaine. On a Mouloud avec nous et on a Eve. Comment allez-vous ?
Très bien.
Bien, parfaitement bien.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Mouloudji, auteur, compositeur et interprète.
Mmh. Eve Martinetto, chargée de production et présidente de l'association Artsberger.
D'accord. Alors aujourd'hui, on est là pour parler donc du Blue Music Festival, c'est bien ça ?
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le Blue Music Festival ? Qu'est-ce que le Blue Music Festival ?
Alors, le Blue Music Festival, c'est un festival solidaire dédié à la neurodiversité qui réunit sur scène des talents locaux et des talents nationaux. Mmh. Et aussi des personnes TSA.
Okay.
Donc c'est avant tout un acte de sensibilisation autour d'un élément qui rassemble tout le monde, c'est-à-dire la musique.
D'accord. Vous parlez de personnes TSA. Qu'est-ce que des personnes TSA, s'il vous plaît ?
Alors les personnes TSA, ce sont des personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Mmh. Donc, ce sont des personnes comme vous et moi. Ça oui. peut être votre voisin de palier ou la personne que vous croisez dans la rue tous les jours et qui, au quotidien, ont des difficultés qui peuvent être au niveau des relations sociales et qui peuvent être aussi beaucoup plus envahissantes comme l'absence de verbalisation ou... l'hypersensibilité au bruit, à la lumière. Donc aujourd'hui, une personne sur 80 dans le monde naît porteuse d'autisme.
D'accord. Donc là, cette année, on a mis l'accès plus en particulier donc, sur les personnes TSA. Mais au début, Blue Music Festival, qu'est-ce que Blue Music Festival ? Ça a commencé quand et comment ça s'est créé ?
Alors, Blue Music Festival, au départ, est une initiative de l'association Artsberger, que je dirige. C'était l'occasion, d'une part, de créer une journée de rencontres et d'échanges, et également de faire un acte de sensibilisation à l'autisme, d'ores et déjà. Okay. On a eu une première édition l'année dernière, d'ailleurs, où Mouloud était déjà avec nous.
Ouais, j'étais présent aussi.
Et donc, au travers d'un festival de musique où on met en avant des jeunes talents, alors ça va d'élèves de la Music Academy internationale à des artistes plus confirmés, nous avions aussi sur scène l'an dernier un groupe composé uniquement de personnes porteuses d'autisme et de soignants qui s'appelait Blue Garden.
Ok.
Cette première édition a eu un joli succès d'estime, même si en termes de fréquentation, c'était pas si mal d'ailleurs, oui. mais voilà, c'était la première édition. Et cette année, pour aller plus loin, on a décidé de monter un spectacle dans le spectacle. D'accord. C'est-à-dire qu'en partenariat avec le CPN, le ministère de la Culture et l'ARS, oui. on a créé une comédie musicale qui est jouée, interprétée et composée par des personnes autistes.
D'accord.
Et qui sera restituée à l'occasion de la deuxième édition du festival, donc qui aura lieu le 7 juin 2024.
D'accord. Donc le projet s'appelle Aurora, c'est bien ça, le spectacle dans le spectacle.
Aurora. Tout à fait. Ça s'appelle Aurora, le spectacle musical. C'est une comédie musicale. Mmh. parle de quatre personnes qui ne se connaissaient pas auparavant oui. et qui ont été choisies par une personne très riche qui veut voir comment ça se passe si on va sur Mars.
Ok. Et donc,
Mouloud, toi, dans ce projet-là, à quel moment t'interviens? T'interviens par rapport à la musique?
Alors, moi, j'interviens par rapport à toute la partie écriture, en fait. Eve m'a contacté fin août pour me parler de ce projet. Je crois que je ne l'ai même pas laissé finir sa phrase et j'ai dit oui tout de suite. Parce que, en fait, j'ai déjà travaillé pendant près de 3 ans au sein de son association où on fait de la musicothérapie. Donc, on aide vraiment ce public avec des besoins particuliers à s'épanouir, à trouver son rythme aussi. Et donc moi je me suis occupé de la partie création de chansons avec eux. Donc j'ai mis en place des ateliers d'écriture, ils ont créé des chansons. Et donc 5 chansons au total. Donc du départ jusqu'à l'arrivée sur Mars, jusqu'à même le retour aussi sur Terre. Je vais pas trop vous en dévoiler parce qu'il faut absolument être là le 7 juin prochain sur la scène de l'autre canal. Et en fait on a pris des petits bouts de chacun et on a brodé et ça a fait des chansons. Donc 5 chansons qui composent cette comédie musicale atypique.
D'accord. Et donc comment ça s'est passé avec les personnes justement TSA, parce que c'est quand même un peu compliqué de pouvoir souvent communiquer avec eux ou même aller vers eux. Comment ça s'est passé dans l'atelier pour qu'ils puissent se livrer et être à l'aise et pouvoir faire cette comédie?
Je crois qu'on a réussi à créer une sorte de bulle assez rassurante dans laquelle ils se sont sentis à l'aise et puis travailler aussi avec des éducateurs, des psychologues, avec l'expérience de Eve, avec mon collaborateur aussi Daniel Fernandez, tout ce groupe-là. A fait que je pense que ce public-là s'est senti tout de suite très très à l'aise et en confiance. Et on a créé en fait un espace de liberté, de création assez rapidement, je trouve en tout cas.
Complètement. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y avait pas de verticalité dans notre relation à tous. Vraiment, on s'est retrouvés tous ensemble et en fait... c'était évident. Là, on est une bande d'artistes. On est en train de mettre en place un projet et on va travailler ensemble. Et je pense que ce soit Mouloud, Daniel qui a géré la partie aussi composition, Hugo Chalon, dont je parlerai tout à l'heure. Et moi, on ne s'est pas positionné en qualité d'aidant ou d'encadrant. C'est vraiment, on s'est retrouvé une bande d'artistes et avec nous, donc il y avait l'équipe des TED qui d'ailleurs est déjà venue en interview sur RCN et ce sont des soignants, il y a des infirmières, des éducs, psychologues, neuropsy, enfin tout. Toute l'équipe nous soutient également, puisque c'est en partenariat avec eux qu'on a mis en place ce projet Aurora. Et eux aussi, c'est pareil. Je pense qu'à partir du moment... Ça fait 10 mois qu'on répète ensemble, qu'on fait ces ateliers. À partir du moment où on se retrouve tous ensemble, c'est juste des gens qui ont un prénom. Chacun leur histoire et on amène tous ce qu'on a amené.
Une collaboration d'artistes en fait. Voilà. On les considère comme des artistes à part entière et ils ont le talent d'artiste. Ils ont des singularités qui font, qui créent aussi et qu'ils ont un pouvoir de création immense en fait. Donc c'est un plaisir en tout cas de créer avec eux parce que eux aussi nous apportent des choses aussi dans leur compétences musicales et ils apportent leur pierre aussi.
Oui, parce que justement, vous disiez qu'il y avait une personne dans le groupe qui avait créé toute un casque VR avec des sons et tout. Est-ce que vous pouvez plus en dire sur cette personne?
Alors, il s'agit de Harley Collin, qui est autiste et sa passion, en fait, c'est la musique et c'est les logiciels, ce qu'on appelle les DAO. Les logiciels de musique assistée par ordinateur. Et il s'est dit un jour, tiens, pourquoi je ne créerais pas mon instrument virtuel? Et donc, il a créé un instrument, mais un casque de réalité virtuelle. Et en fait, on est littéralement dans une pièce. Très rassurante, une pièce bleue, d'ailleurs. Et devant soi, il y a un synthé. avec un synthé modulaire. Donc, c'est les synthés à l'ancienne, avec tous les potards pour trafiquer les ondes. Et on a des joysticks aux mains. Et en fait, quand on bouge, dans le casque, on voit des mains virtuelles. Et on se met devant le piano et on joue. Et on change les réglages et ça fait du son.
D'accord.
Et ça fonctionne. Et il a créé ça et je fais de la pub, Harley, si tu m'entends. Salut.
Bah, c'est super intriguant déjà.
Il a créé son projet, ça s'appelle P-Walk. Et on peut le trouver d'ailleurs sur Facebook. Il me semble qu'il a une page, donc Harley Colin.
J'irai m'informer déjà et je l'inviterai peut-être à venir.
Et donc, cet instrument est incroyable. C'est vraiment... C'est une autre manière encore d'aborder la musique, en fait. Puisque c'est vraiment... d'ailleurs, le processus, ce qu'il voit dans le casque, donc il se sert de cet instrument puisqu'il joue sur Aurora. Et il y aura une vidéo projection de lui, de ce qu'il voit pendant qu'il joue.
D'accord. C'est très très intéressant. Je pense que j'irai le voir sur Facebook pour l'inviter prochainement. Ça serait super cool de pouvoir découvrir son invention. Et pour l'instant, nous allons écouter un son. Quel est le son que vous souhaitez qu'on écoute aujourd'hui ?
Alors, c'est un son qui s'appelle Petite Tâche. Et c'était particulièrement important pour nous qu'il soit diffusé, puisque c'est une chanson écrite et composée par Hugo Chalon.
D'accord.
Une autre personne TSA qui a composé les musiques de Aurora, le spectacle musical.
D'accord, nous allons écouter Petite Tâche et puis nous allons pouvoir découvrir un peu plus Hugo Chalon juste après cette musique.
Ton doux visage parsemé de riantes perles de rosée, souple teinté d'un or à grain par les fa passo de serin. Ces petites touches de lumière te rendent encore plus espiègle. Ton regard oublie les règles qui enserrent ton annulaire. Petit point de mystère, petit point sans virgule, petite tache de rousseur, petite tache de douceur. Ton maquillage de lady rehausse ta beauté particule. Dessin de mouches minuscules qui battent tes ailes quand tu ris. Petites étoiles d'ailleurs, constellations inconnues. Tu me consternes ingénu de tes tâches de bonheur. Petit point de mystère, petit point sans virgule, petite tâche de rousseur, petite tâche de douceur. Vocalise d'un chant berbère, tes tatouages au aîné, modules les cantiques fiers, des signes claniques oubliés. Les Touaregs ont perdu ces petites marques magiques d'un langage érotique semé de fruits défendus. Petit point de mystère, petit point sans virgule, petite tache de rousseur, petite tache de douceur. Je traduis tes discrets messages, plein de petits points sans lettrer. Le code morse si peu sage de notre alphabet très secret. J'aime tant tes yeux pointillés, mais voilés par une alliance. Souvenir aller de vacances que nous n'avons pas partagé. Petit point de mystère, petit point sans virgule, petite tache de rousseur, petite tache de bonheur.
À l'Est sur RCM. Elfenoul.
De retour avec nos invités de la semaine, on est avec Mouloud et Eve. Est-ce que vous allez toujours bien ?
Super.
Toujours, toujours en forme.
Alors, nous venons d'écouter Petite Tâche de Hugo Chalon. Donc, vous souhaitez dire un mot sur Hugo Chalon ?
Oui. Alors, Hugo Chalon, moi, je l'ai connu il y a 6 ou 7 ans maintenant. Mmh. En fait, ça a été un de mes élèves à la Musique Académie Internationale, parce que je suis prof là-bas. Mmh. Et donc, je l'ai eu dans le... Enfin, je l'ai connu dans un cursus qui s'appelait à l'époque Musique à l'image, et après, je l'ai eu comme élève dans un cursus où j'interviens, qui est le cursus technicien du son. Et donc, c'est une personne TSA et extrêmement attachante et extrêmement sensible. Et surtout, c'est un musicien extraordinaire. Mmh. Et quand je lui ai parlé du projet Aurora et que je l'ai sollicité justement pour participer à la création et à la composition, c'est tout naturellement qu'il a dit oui tout de suite et qu'il s'est investi corps et âme dans le projet. Et vraiment, c'est son talent gagne à être connu parce que c'est un super compositeur et c'est un super humain. Mmh. Et donc, voilà, ça me semblait important de le souligner.
Bah, n'hésitez pas à aller voir sur toutes les plateformes de musique Hugo Chalon. Donc là, on a écouté Petite Tâche, mais il y a plusieurs d'autres sons que vous pouvez écouter. Alors là, on parle du Blue Music Festival aujourd'hui, et en particulier d'Aurora. Alors par rapport à Aurora, pourquoi avoir choisi forcément les personnes TSA en sachant qu'il y a d'autres personnes qui auraient pu participer à cet événement, mais là, TSA, pourquoi en particulier TSA ?
Donc je gère une association qui organise des loisirs ludiques et créatifs autour de la musique pour des personnes autistes.
Okay.
Et pourquoi cette association ? Bah parce que moi-même, je suis maman de deux enfants autistes.
D'accord.
J'ai connu toutes les difficultés que pouvait être l'école qui ne veut pas qu'on inscrive son enfant, le centre aéré qui ne veut pas prendre en charge son enfant, l'école de musique qui ne veut pas donner de cours parce qu'on ne sait jamais, il pourrait être dangereux.
Ouais.
Enfin, j'ai eu vraiment tout le packaging des portes claquées au nez, notamment quand mon fils était petit, parce que mon fils est né en 2000. Il faut savoir qu'au début des années 2000, c'était vraiment pas sexy la vision que pouvaient avoir les gens du handicap en général. Ça ne l'est toujours pas, hein, soyons clairs, mais au moins aujourd'hui on en parle un petit peu plus. Et après m'être pris autant de portes fermées à la figure, je me suis dit que ce serait bien que je crée une association dédiée à la différence. Parce que c'est vrai que mon asso s'appelle Artsperger, mais en soi, j'ai pas que des autistes. Il n'y a pas que des personnes qui ont, historiquement, on ne le dit plus maintenant, le syndrome d'Asperger. Donc... Évidemment que par rapport à l'impulsion, création de l'association, le motif, le festival porte sur le trouble du spectre autistique, mais plus largement en fait sur les troubles neurodéveloppementaux.
Okay.
Donc il n'y a pas que des personnes autistes, en tout cas dans l'asso, et même qui seront présentes ce jour-là. Parce que autrement, ça voudrait dire encore fermer des portes aux autres et ça aurait pas de sens. Mmh. Donc aujourd'hui sur scène, oui, il y a une majorité de personnes TSA, mais c'est avant tout aussi un message de sensibilisation sur la neurodiversité.
Okay.
Et il y en a plein. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes TDA, TDAH. Il y a de la dépression, il y a l'autisme, et il y a des handicaps génétiques. Il y a d'autres, syndromes, pathologies, littéralement aussi, qui existent. Et voilà, si on peut donner un coup de main et créer un moment de partage sans regard de jugement ou négatif, et ben, ce sera déjà chouette.
D'accord. Donc toi, justement, dans ton association, tu travailles pour sensibiliser les gens à toutes les maladies qui puissent exister?
Alors, dans l'asso, vraiment, moi, je suis face aux enfants et aux adultes bénéficiaires.
Okay.
C'est-à-dire que le process, c'est... je fais connaissance avec... Ça peut être un enfant, ça peut être un adulte, verbal ou non-verbal.
Mm-hmm.
Je vois ce qui lui plaît, ce à quoi il est sensible positivement et ce qu'il ne peut pas supporter. Et puis finalement, on va créer des activités adaptées qui vont aider la coordination entre la main droite et la main gauche. Apprivoiser un son parce que ça va être une personne qui sursaute dès qu'il y a un bruit. Donc toujours en douceur et autour de quelque chose de ludique en fait.
Okay.
Et ça aide après pour la prise de confiance en soi, pour la verbalisation. On a vu une personne prononcer ses premiers mots dans le cadre d'un atelier.
Je pense à Carla.
Tu vas pleurer, toi.
Non, du tout.
Si, 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 je
dès
vois.
Qu'on, dès
je
qu'on
vois.
Évoque Carla et tout. Non, non, c'est une gamine qui est arrivée assez tôt et elle verbalisait pas du tout. Et elle a commencé à émettre des sons et on voit à quel point la musique est utile dans ces troubles-là. Donc vraiment, ça les aide et c'est pour ça aussi que ce festival est nécessaire aussi.
Mmh. Et
elle nous a dit son premier maman, qu'on lui a joué un... J'ai la preuve en vidéo. Ouais. On lui a joué inlassablement des choses en chantant « Maman, Kiki, Papa ». Et finalement, à un moment donné, contre toute attente, on était en train de filmer, parce qu'il y avait la maman qui était présente, autrement je ne filme pas les enfants. Mmh. Et tout d'un coup, elle se met à nous chanter son plus joli maman.
Puis c'est sorti comme ça, on ne sait pas d'où c'est sorti, mais c'était là et ça nous a transpercé, je crois.
C'est que d'émotion. Hein. C'est le premier mot, c'est vraiment quand même significatif.
Elle avait 9 ans.
Ouais, c'est ça.
Ok.
Et alors, on parlait justement des types de troubles. Mm-hmm. Le trait autistique. Autistique peut être une conséquence d'autres troubles, et notamment Carla, elle est atteinte d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Phelan-McDermid.
D'accord.
Donc c'est une délétion génétique. Il y a un petit truc en moins dans un gène qui fait qu'elle ne peut pas verbaliser normalement et qu'elle a des troubles neurodéveloppementaux qui s'apparentent à l'autisme.
Okay.
Et pour autant... Ce n'est pas par nature de l'autisme. Et elle est avec nous. En fait, on n'attend pas que les enfants ou les adultes aient un diagnostic précis ou une étiquette, en tout cas, collée à leur dos pour essayer de donner un coup de main et d'aider. Le but, il n'est vraiment pas là. C'est vraiment faire quelque chose qui puisse donner un coup de main d'une manière ou d'une autre.
Okay. Est-ce qu'on peut rappeler le nom de l'asso ?
Art Sperger.
D'accord, donc pour toute personne qui souhaite en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas à aller voir donc Art Sperger.
Alors on a une page Facebook, j'en profite pour dire que le Blue Music Festival a une page Facebook et un Instagram, et Aurora aussi.
D'accord, donc... pour revenir sur Aurora, vous m'avez dit que toutes les personnes qui s'occupaient, en tout cas de la musique, du son, qui étaient là pour la technique par exemple, c'était des personnes du CPN aussi.
Alors, pour la technique, c'est des personnes de l'autre canal.
Ouais.
L'autre canal est partenaire aussi de ce projet.
Mmh.
J'en profite pour remercier Alain Broard, Hélène Aide, Lorraine Gasser... Cédric Mijalek, j'ai tout plus tous canal. Les noms, mais voilà. Merci l'autre canal, bisous. La MAI aussi qui nous a prêté ses locaux pour certaines répétitions, merci la MAI, bisous. Mais donc la technique, tout ça c'est l'autre canal. Par contre, sur scène et avec les jeunes et moins jeunes interprètes et acteurs de cette comédie musicale, on a toute l'équipe des TED, donc Sandra Moine, psychologue, Valérie, éducatrice, Kevin D, éducateur, Kevin Brudnogallo, neuropsy, donc toute cette petite équipe-là est sur scène et est là aussi pour... orchestrer avec nous, encadrer, accompagner, et ils jouent et ils chantent et ils sont à 2000% avec nous.
Ils sont musiciens, ils ont du talent aussi, donc ils encadrent aussi dans cet aspect-là, pas que le côté soignant parce que là, à ce moment-là, je pense que la casquette, elle tombe un petit peu, mais vraiment, ils sont vraiment là en tant que musiciens.
Ok. Donc, c'est des personnes qui font déjà de la musique au quotidien ou...
Alors, ce sont des soignants, ils travaillent au CPN de l'Axou, mais ils sont tous artistes.
D'accord.
Et nous, on s'est rencontrés avec Eted en 2019. Il y a eu le confinement entre-temps, donc on a commencé des projets, on a voulu mettre en place des ateliers communs avec Artsperger, donc courant 2020-2021. Et puis, quand j'ai mis en place le premier Blue Music Festival, c'est tout naturellement que j'aurais dit, allez, venez, on essaie de faire un truc ensemble. C'est là que le groupe Blue Garden s'était créé et qu'ils avaient fait aussi un mini-concert, donc soignants et patients sur scène. Ils sont hyper investis. Anaïs, qui est la chef de service, elle a forcément répondu tout de suite présent pour nous aider à structurer les projets et puis pour essayer d'activer un maximum de leviers. C'est une équipe jeune, dynamique, et ils sont tous géniaux, en fait. Donc, ça fait très bisounours, là, parce qu'on dit que du bien, que du bien, que du bien.
Non, mais c'est bien.
Il y en a forcément un ou une qui pue des pieds. Hein, pas...
Mais c'est pas ça le plus important. Non, mais là, le plus important, ce qui ressort, c'est, bah, comme tu l'as dit, c'est que toi, au début, quand t'as des enfants atteints donc, de TSA, et donc ça a été compliqué pour toi, où les portes étaient un peu fermées. Donc là, vous participez quand même à ce truc-là d'ouvrir les portes, et puis même dans la musique, et puis dans les associations, d'ouvrir les portes et informer aux gens qu'ils sont comme nous, ils sont comme tout le monde, en fait, on est tous pareils, et que c'est important de pouvoir les représenter aussi. Là, le fait, je pense, que d'être à l'autre canal sur scène, c'est quand même une grande chose, c'est quand même beaucoup. Même pour eux, le fait de peut-être pas s'imaginer ça, le fait de leur laisser la place et... le faire, je pense que ça doit beaucoup les toucher aussi.
Ah bah ils sont sur la page d'Aurora, j'essaye de publier pas mal de choses assez régulièrement. Ouais. Et là, ce matin, j'ai republié le teaser vidéo qu'on avait filmé lors d'une répétition à l'autre canal. Ouais. Et je vois les commentaires, notamment un des usagers, Cyril, qui dit « Oh là là, j'ai hâte, mais j'ai très peur, mais j'ai envie de vous retrouver. » Enfin, on est tous...
C'est ça, c'est plein de sentiments mêlés, en fait, avec à la fois la hâte et en même temps les peurs qu'ils ont aussi réussi quelque part à freiner aussi dans ce projet-là aussi. Je pense que l'équipe les a beaucoup aidés aussi à passer au-delà, je pense, de ces peurs et de ces freins. Et de se produire sur scène, déjà, c'est une grande, grande victoire, je pense, pour ce groupe.
Complètement.
Aurora.
D'accord. Bah, donc, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot à dire, justement, par rapport à Aurora ou tout simplement par rapport aux personnes TSA ou par rapport à la sensibilisation, un dernier mot
Réservez vos places.
Ouais, réservez vos places.
Réservez vos places le 7 juin 2024 à l'autre canal, ouverture des portes 17h30.
D'accord.
Vous trouverez sur scène Mouloudji, slammer nancéen qu'on ne présente plus, Kaotar Meziti. Alors ce n'est pas marqué sur l'affiche, car ce sont donc on a organisé un casting de jeunes talents pour permettre à deux groupes naissants locaux aussi de se produire dans le cadre du festival. Donc, il y aura Kaotar Meziti, Musique du Monde, Daniel Fernandez, le parrain de l'association chanteur, auteur, compositeur, guitariste. Aurora, le spectacle musical, le fameux. Pharax, donc jeune talent local aussi juste après. Et enfin, on se retrouvera avec Sisterhood Project. Donc ça, c'est un groupe, trois jeunes femmes qui nous viennent de Paris. C'est trip-hop.
Ok.
Et enfin, Kiplan, qui a enflammé le printemps de Bourges, et le chien à plumes, groupe de rock.
Donc, bah, voilà. Un très beau programme. Donc justement, n'hésitez pas à aller réserver votre place donc, pour le 7 juin. À 18h à l'autre canal pour le Blue Music Festival. Donc je vous remercie beaucoup Mouloud et Eve d'avoir été présents pour cette interview et de nous avoir partagé cet événement. Et puis on se retrouve le 7 juin pour le Blue Music Festival.
Merci.
De rien. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. À la semaine prochaine pour Complètement à l'Est.